Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment réussir la réinsertion sociale des enfants sortis des groupes armés? On en parle dans cette émission avec Fernando Nkanawa Katamba, directeur exécutif pays de la FSH, Fondation Solidarité des Hommes. Monsieur Fernando Nkana, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien Okapi Service. Nous recevons également tout à l'heure monsieur Arsène Mukendi Chidimbu, officier des liaisons de Roméo Dallaire, initiative Enfants Soldats. Il sera en ligne tout à l'heure. Avec lui, nous allons aussi échanger par rapport à la réinsertion des enfants sortis des groupes armés. Dans la seconde partie de cette émission, comment lutter contre les embouteillages dans nos centres urbains? Bao Bitini, directeur financier administratif de la CNPR, sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Okapi Service, Mimi Kindou est à la mise en onde. Marcel Gomboa sur la coordination et la réalisation de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi vous propose cette semaine une série d'émissions sur le volet protection des civils du mandat de la MONUSCO. Qu'entendez-vous par protection des civils et comment cela se passe concrètement sur terrain? Des précisions dans nos émissions interactives, magazines thématiques, dossiers et reportages à suivre sur Radio Okapi, la radio de la paix en FM et sur la toile. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans ce programme, dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. Près de 60 000 enfants ont été recrutés de 2006 à 2019 au sein des forces et groupes armés en République démocratique du Congo, selon un rapport de la MONUSCO. Pour les aider, pour aider ces enfants à reprendre une vie normale, plusieurs organisations militent pour leur démobilisation et leur réinsertion sociale. À ces jours, certains d'entre eux ont pu regagner leur famille et ils ont suivi des cours d'alphabétisation et apprennent différents métiers. Par ailleurs, d'autres sont abandonnés à leur triste sort. Alors comment réussir l'encadrement des enfants sortis des forces et groupes armés? Nous avons en ligne Fernando Nkanawa Katamba, directeur exécutif pays de la Fondation Solidarité des Hommes. Il intervient depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Fernando Nkanawa Katamba, encore une fois, bonjour.
Bonjour encore une fois, monsieur le journaliste.
Alors dites-nous dites-nous qu'est-ce que vous faites au sein de la Fondation Solidarité des Hommes en faveur des enfants sortis des groupes armés?
Oui, la FSH, Fondation Solidarité des Hommes, était une organisation des droits congolais. On s'occupe plus de le droit de l'homme et particulièrement les droits des enfants. Donc, on est opérationnel à la République démocratique du Congo depuis 1990. Et c'est à ce titre que la FSH est parmi les premières les organisations qui ont abordé la problématique dès les premiers récupération du premier enfant Mai Mai de Bunyakir. Donc là nous sommes en 1998. Mais il est vrai que le premier projet a commencé avec l'UNICEF en 1996 lorsque l'AFDL est arrivé à Bukavu. Donc les expériences sur la réinsertion ou alors la démobilisation des enfants a commencé à l'Est et précisément dans la ville de Bukavu. Et la FSH a été parmi les premières organisations qui ont abordé la problématique. Et bien sûr, vers 2004, on a mis en place le programme DDR. Mais vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'échecs avec le programme DDR avec la CONADER. Hein. On a commencé avec le BINADER quand le pays était encore divisé. Et au niveau de l'Est, nous travaillons avec l'RCD, avec la commission interdépartementale de sortie des enfants dans les groupes armés. C'est la suite de beaucoup de plaidoyers que nous avons menés. Mais le problème n'est pas là. Sortir les enfants, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Parce que les enfants...
Oui. D'abord, Fernando, comment est-ce que vous êtes... Quelles étaient les stratégies utilisées pour extirper ces enfants des groupes armés ?
Bon, écoutez, les premières stratégies, ça veut dire que nous avons abordé la question dans les plaidoyers. On a rencontré les différents acteurs qui ont été les acteurs de recrutement des enfants. Il y a eu le RCD et ensuite tous les autres groupes armés des différentes rébellions qui sont passées à l'Est. On a créé un environnement de rencontre avec eux pour parler et montrer quels sont les droits des enfants et ainsi de suite. Et bien sûr, avec l'adhésion de la RDC au statut de Rome et la mise en place du tribunal international, il y a eu quelque chose qui a motivé à ce que les groupes armés puissent en fait recevoir le message. Lorsque Thomas Lubanga a été arrêté, ainsi de suite, pour la cause de, en fait, pour l'infraction de recrutement des enfants, et ça nous a aidé à chaque fois qu'on les abordait. Donc les enfants sortaient et il y a des groupes qui se rendaient. D'autres groupes, quand ils se rendaient, nous allions vers eux dans les centres de cantonnement mis en place par le gouvernement où nous devions identifier les enfants, les certifier comme enfants et les faire sortir. Et après, on devrait les placer dans le système que nous appelons la phase transitoire de 3 mois. Au-delà des projets, en fait, au-delà des projets, mais c'est à quoi ils devraient sortir. Mais les projets n'arrivent que lorsqu'il y a le financement. Donc on ne veut pas, en fait, se camponner sur le projet, mais c'est la question de la socialisation de ces enfants, de leur sortie jusque dans la société.
Alors comment est-ce que vous avez procédé pour les réinsérer dans la vie sociale?
Donc la première phase, c'est lorsqu'ils sortent, après discussion, l'identification, et puis ensuite il y a la certification des enfants qui sont sortis. Nous les accueillons pour une phase transitoire. Soit ils sont passés dans les CTO, d'autres nous les avions placés dans les familles d'accueil, hein, n'est-ce pas? Mais les 3 mois, c'est juste pour la détraumatisation et les autres phases. Et puis ensuite, il faut rechercher les familles parce qu'ils doivent aller peut-être, lorsque nous les avions accueillis, ils ne sont pas de ce milieu. Il faut rechercher la famille. Il faut faire la médiation des familles parce qu'ils ont commis parfois des bévis. Ou bien, la séparation avec la famille. Il y a eu des antécédents bien avant la séparation, ainsi de suite. Et vous le savez qu'ils ont été dans un système totalitaire. On les a appris à tuer, on les a appris à violer, peut-être dans leur communauté. Donc on a fait des médiations, on continue à faire des médiations pour les autres. Mais cela ne signifie pas, on peut réussir la réinsertion sociale. Mais si la réinsertion sociale n'est pas suivie par la réinsertion économique, hein, pour que l'enfant puisse être utile à lui-même et à toute la communauté, on a toujours échoué et c'est pourquoi on a eu des cas de réenrôlement, des enfants qui sont encore retournés. Parce que dans les milieux totalitaires, on les a appris, lorsqu'on a l'arme, on peut avoir tout, on peut avoir une femme, on peut avoir l'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut avec l'arme. Mais imaginez-vous maintenant que nous fournissons un effort pour les faire sortir et les retourner à la maison. Et dans les familles où peut-être on vit avec une bourse de 10 dollars, donc c'est ça, en fait, les frais de substance qu'on a pour faire le commerce, la maman ne fait que vendre le canne à sucre, ainsi de suite. L'enfant rentre, il devient une charge, non seulement pour la communauté, mais aussi pour la famille. Et parfois, ça crée encore une autre forme, une forme d'hérésie. Et voilà pourquoi on a dû mettre en place tout un mécanisme pour que les enfants, lorsqu'ils rentrent, soient accompagnés avec tous les mécanismes de réinsertion économique.
Bien, on va accueillir les auditeurs et nous avons Aline Tamboué depuis Beni et Branly de Kinshasa. Tamboué, Kassé, laissez les bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody et bonjour aussi à l'invité, mais aussi bonjour à tous les Radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, pour le moment, je n'ai pas de questions, mais j'ai les observations ainsi que les suggestions. À mon humble avis, je pense que tout cela est dû à l'irresponsabilité du gouvernement congolais à travers son armée ainsi que son police qui sont incapables de sécuriser les frontières ainsi que la population et leurs biens. Monsieur, nous, à Ben, vous allez voir que les jeunes sont risés suite à la misère qui traverse la population congolaise. Mais aussi, les enfants sont victimes de l'incursion des rebelles qui se fait jour et nuit ici chez nous, en ville de Beni. Mais si vous écoutez certains otages qui sont pris par l'armée, soit la police, il y a une incursion, ils disent que on les trompe d'aller travailler quelque part, soit en Somalie, à Nairobi et que sais-je encore, et subitement ils se retrouvent dans la brousse en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, comme suggestion, j'aimerais que le gouvernement puisse prendre d'abord sa responsabilité en accordant la paix en ville de Beni particulièrement, mais aussi à la région de l'Est en général. Le gouvernement doit créer les centres d'apprentissage pour que ces jeunes-là ou bien ces enfants-là puissent apprendre certains métiers pour qu'ils puissent se prendre en charge. Nous remercions le travail fait par DDR parce qu'ils nous aident pour cela, pour retrouver encore nos enfants ici chez nous en ville de Beni. Merci beaucoup.
Bien. Branly, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Jody.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la réinsertion des enfants sortis des groupes armés?
Oui, mon intervention quant au sujet du jour. Vous savez, comme je le dis toujours, on ne corrige pas les erreurs en commettant d'autres ou en commettant encore des catastrophes. Vous savez, lorsque les enfants ont été enrôlés par des groupes armés aussi, par moment dans d'autres groupes d'insurrectionnels, c'était justement un fait social dû à l'abandon des enfants. Lorsque l'enfant se trouve inoccupé, l'enfant se trouve abandonné vis-à-vis de ses parents. Les parents ne savent plus prendre en charge leurs propres enfants. L'enfant se trouve dans son état de vulnérabilité très avancé. Alors, l'enfant deviendra vulnérable aussi devant n'importe quelle offre. Dès que l'enfant se voit en face de quelqu'un qui va lui produire 2000 francs, alors que lui a besoin de 50 francs, mais lui a 2000 francs, l'enfant pourrait accepter d'intégrer un groupe armé pourvu qu'il obtienne quelque chose en contrepartie. Mais qu'est-ce qui se passe en RDC? En RDC, lorsque l'État congolais et aussi d'autres organismes non gouvernementaux de développement, ça veut dire des structures sanitaires, l'État congolais et ses structures se contentent seulement de prendre les enfants, de se charger pour la démobilisation, mais le travail de suivi et évaluation de cette situation, là, les structures ne les font pas, ou les font très mal, parce qu'en réalité, lorsque vous allez réinsérer l'enfant, ou on parle de la réinsertion sociale, vous devez aussi poser la question à l'enfant, qu'est-ce que vous voulez faire?
Il veut retourner à l'école, ou soit, et être comme tous les enfants de son âge.
Oui, il dit par exemple, moi j'ai toujours vu un monsieur Carté qui est par exemple député. J'aime aussi étudier pour qu'un jour je devienne aussi député, donc je veux aussi étudier. Ou aussi les plus élevés, j'aime étudier pour devenir maçon, pour devenir charpentier, pour devenir mécanicien, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on se limite seulement à prendre les enfants, distribuer des $20, distribuer à manger. On se limite seulement à ce niveau-là. On pense avoir réinséré l'enfant, alors qu'on est très loin de la réalité. Il y a aussi des centres de rééducation. Il y a des centres, il y a des familles d'accueil. Mais regardez ce qui se passe en réalité. Lorsque ces enfants-là sont placés dans des familles d'accueil, ce qui se passe, c'est totalement différent de ce à quoi on espérait. Regardez que on donne à une famille d'accueil, moi j'ai des témoignages, on donne de l'argent, on finance une famille d'accueil pour recevoir ces enfants-là. Mais regardez seulement le traitement de cet enfant-là au sein de cette famille-là. Lorsque l'enfant est déjà préparé pour être enseigné, il doit aller à l'école. Mais est-ce que réellement la structure qui s'est tapée la poitrine pour payer les frais scolaires, est-ce que la structure vient encore de près pour suivre la situation? Parce que imaginez que l'enfant qui était dans l'armée a vu comment on a tiré les gens. L'enfant sait comment tirer. Alors, toutes ces images montrent que l'enfant a dû observer. C'est tout dans une population civile. Est-ce que vous voyez les genres, les types de jeux que cet enfant-là peut entreprendre? Est-ce que ces images-là ont été déjà nettoyées? Donc, le cerveau de cet enfant-là a été nettoyé vis-à-vis de ces images. Mmh.
Merci, merci Branly. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Merci. On va donner la parole à Maître Edmond. À Maître Edmond Bokolo de Mbanda de Gemena. Maître Edmond, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jordi. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, moi, je pense que pour la protection des enfants sortis des forces groupes armés, nous avons un texte juridique qui est la loi de 2009, du 10 janvier 2009, qui prévoit des mécanismes de protection de ces genres d'enfants. Et puis, nous avons également plusieurs instruments juridiques internationaux, comme l'auditeur qui vient de me précéder. Je crois que pour que ces enfants-là soient réintégrés dans la vie sociale, je crois que il faut vraiment de centres de rééducation et puis il faut de familles d'accueil transitoire. Nous avions aussi à travailler dans un projet avec l'UNICEF en 2010 avec les enfants Emielé à Mbandaka. Moi, j'étais même éducateur social. Vous allez voir que ces enfants-là, nous étions financés dans un cadre d'une ONG de protection de l'enfant. Et que nous avions créé des centres et nous avions accueilli ces enfants, les enfants Enielés. Et l'objectif, c'est comme ces enfants viennent d'un conflit armé, le mouvement d'insurrection Enielé, nous avions fait ce qu'on appelle la réunification familiale. Donc l'UNICEF a financé et nous nous sommes déplacés à Buburu, à Bomongo, à Makanza et à Gemena. Moi-même, j'étais venu à Gemena pour réinsérer ces enfants, pour les réunifier. Au niveau de leur famille, après que les enfants aient subi une certaine formation. Parce que ces enfants, comme celui qui m'a présenté vient de le dire, on ne peut pas seulement les doter de la nourriture, parce que ça ne suffit pas, pour effacer un peu ces traumatismes. Il faut que ces enfants soient également insérés ou puissent bénéficier d'une formation qui peut assurer quand même leur réinsertion totale au niveau de la société. Donc ces mécanismes-là, doivent être protégés, fournis par l'État lui-même, ou à défaut par certains partenaires ou certains organismes internationaux, afin que ces enfants puissent réellement être intégrés dans la société.
Merci. Clément, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour à Radio Capé.
Quelle est votre question, Clément?
Oui, moi je devrais d'abord suggérer ceci, pour dire que cette réintégration, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Difficile du fait que ces enfants ont déjà un esprit de socialisme. Donc, ils ne sont pas encore habitués avec la vie sociale. Donc, pour les intégrer encore, ça demande premièrement que le gouvernement congolais puisse s'intégrer dans cette situation avec des humanitaires. Mais ce qui est difficile est que l'État congolais ne peut pas s'en charger sur ce. Parce que ici à Kananga, moi je suis à Kananga, j'ai vu, il y a même d'autres jeunes gens qui veulent entrer dans des groupes armés, dans des groupes de milices. Donc, comment vous pouvez lutter contre ceux qui sont déjà dans l'armée pour les réintégrer dans la vie sociale, tant qu'il y a d'autres encore qui veulent partir dans des groupes armés ou dans des groupes de milices. Donc c'est par là où je voulais poser la question à l'invité. Comment vous pouvez réintégrer les jeunes qui ont déjà l'idée des militaires, tant qu'il y a d'autres qui veulent maintenant entrer? Parce que j'ai vu ici à Kananga, ici à Lefo, Kananga, il y a plusieurs, donc à peu près 800 jeunes qui ont fait le concours national pour entrer à l'académie cette fois-ci. Donc, comment vous pouvez réintégrer ceux qui ont déjà l'esprit militaire, tant qu'il y a d'autres jeunes gens qui veulent maintenant entrer? Vous parlez par exemple de Kivu, Nord Kivu et autres, comme il vient de le dire, mais ici à Kananga. Donc l'État congolais pouvait s'en charger sur ce. Les invités peuvent m'éclaircir sur ma question que j'ai vient de poser.
Merci Clément de Kananga. Etienne de Mahagui, bonjour.
Bonjour M. Jadid Daniel Kachama, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Étienne?
Bon, moi j'ai tout juste une suggestion et j'aurais une seule question seulement à poser à M. l'invité. Concernant ce problème de 60 000 enfants, à mon avis, je crois qu'il faudrait que le gouvernement puisse créer un emploi pour ces jeunes-là. Faire par exemple les champs, planter les maïs, manioc, légumes, ainsi de suite, parce que ce sont des jeunes qui savent quand même cultiver. Ensuite aussi, les former à faire des métiers comme des menuiseries, maçonnerie, car les enfants n'ont pas le droit de réintégrer l'armée nationale. Mais ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans, là, ceux qui aiment faire l'armée, peut aller faire la formation et réintégrer l'armée. Et j'ai terminé par dire que à cause de ces jeunes deviendra un grand problème si le gouvernement ne fait pas beaucoup d'attention, parce que demain ils deviendront un grand couloune, un grand coupeur de la route là, et ils vont nuire aux paisibles citoyens. Alors ma question est la suivante pour l'invité. Il nous a dit que cette leur structure a commencé depuis 1990. Donc, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, c'est 31 ans. Et quel bien-là il peut faire de leur structure maintenant concernant notre province de l'Ituri? Parce que l'Ituri aussi a eu beaucoup de cas de groupes armés. Voilà ma contribution et bonne continuité de l'émission jeudi.
Bien, merci. Alors, M. Fernando Cana, il y a eu beaucoup d'interventions, des contributions et des questions. À vous la parole.
Oui, merci beaucoup, M. le journaliste. Je trouve que le sujet, il est très pertinent parce qu'il a attiré l'intérêt de tous nos amis qui sont intervenus. Bon, écoutez, et par rapport au premier intervenant, il est vrai que vous savez très bien qu'on a dit, j'ai dit dans mon ouvrage, j'ai fait ça chez la contribution à l'autonomisation des enfants victimes de conflits armés qui était publié aux éditions universitaires européennes en 2018. J'ai dit, parce que Tumbalwaba avait lancé la campagne en 2007, zéro enfant dans les groupes, forces, groupes armés. Et moi, j'ai répliqué pour dire cette équation s'établirait lorsqu'il y a zéro groupe armé. Regardez, monsieur le journaliste. Nous avons plus de 144 groupes armés. Les plus actifs et plus farouches. Mais au-delà de ça, c'est chaque communauté à l'est ici, il y a un petit groupe armé qui, et au-delà, il y a aussi des bandits qui font des coupeurs de route, ainsi de suite. Donc c'est une activité économique génératrice de revenus pour ces enfants qui ont été oubliés et ils sont abandonnés. Et donc, ils sont inoccupés comme l'auditeur a dit. Ils sont dans une vulnérabilité. Regardez la situation de nos campagnes. Je suis à l'est d'ailleurs déjà, c'est tous les jours qu'il y a des déplacements. On en compte des milliers de déplacés chaque jour. Et ça fait une certaine vulnérabilité. Et il y a là quelque chose qui s'expose, ça veut dire... une industrie de groupes armés, donc à ce moment-là, les enfants souffrent. Et voilà. Donc nous disons, il faut éradiquer d'abord les groupes armés, zéro groupe armé, et on aura mettre fin au recrutement et l'enrôlement des enfants dans ces groupes armés. Et nous disons encore qu'au niveau de la RDC, avec l'accompagnement de la MONUSCO, les forces armées de la RDC pour éradiquer les recrutements, en fait pour les enfants, et les enfants garçons, mais pour les filles, il y a encore la violation, une autre violation, c'est-à-dire le concubinage, les violences sexuelles, etc. Mais pour le recrutement des enfants, dans les groupes armés, il y a zéro. Les autres cas sont seulement dans les groupes armés et que le gouvernement ne contrôle pas. Par rapport à ce que mon ami Edmond, je pense Edmond, qui a montré qu'il y a en fait, le mécanisme de protection, ainsi de suite, qu'il faut passer par des centres transitoires et ou des familles d'accueil, en fait, c'est un schéma qui est dicté dans le cadre opérationnel. Parce que la CONADER, la force de la CONADER, elle a mis des outils, à cette époque, le cadre opérationnel que nous avons encore révisé. Mais c'est la mise en application. L'État, il est absent dans ça. On attend, c'est que ce sont les intervenants, donc les bailleurs de fonds, la Banque mondiale a financé à l'ordre de, je pense, 90 millions en 2004, en 2005, en 2006. Tout l'argent était bousillé, et puis même l'argent qu'on a donné aux ONG internationales. Mais il faut voir les résultats, parce qu'on ne s'improvise pas dans la réinsertion parce qu'on a l'argent. La réinsertion, c'est une combinaison, en fait, des stratégies, des gens qui croient. Les gens qui ont une grande expérience sur le terrain. Mais l'ONG, parce qu'elle est une ONG internationale, on a donné beaucoup d'argent aux ONG internationales, mais je vous assure que les résultats ont été des résultats qui ont été mitigés. On a vu une ONG donner des cobayes, et on a vu ceux qui ont donné des cochons dans un milieu musulman, et donc sans pour autant suivre les exigences de la réinsertion.
Donner des cochons aux enfants. Qu'est-ce que les enfants vont faire avec les cochons?
Oui, on donne des cochons. Et puis, dans quel milieu musulman? Et donc, vous voyez comment la réinsertion a échoué. Et le résultat de la CONADER, c'était quoi? À l'audit et évaluation, on a vu les résultats. On a vu les résultats. Et donc, le gouvernement, dès lors que le DDR1 a échoué, le gouvernement avait commencé à tâtonner DDR1, DDR2, et puis DDR3, et puis ensuite, aujourd'hui nous sommes en train de parler de DDR communautaire. Mais le gouvernement, tout ça, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Il faut négocier avec la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, et ainsi de suite. Et quand même qu'ils auront cet argent, ce sont encore les humanitaires qui vont venir gérer cet argent. Et voilà donc les résultats. Bon, comme vous le savez, notre ami Clément de Kananga, il est vrai que c'est difficile. La réinsertion n'est pas une chose facile. Imaginez-vous, le simple exemple, nous plaçons un enfant qui a été recruté, pas même recruté, on a essayé de le tromper qu'il irait à Beni.
En Somalie, etc., oui.
Non, à Beni, qu'il y a quelqu'un qui va l'amener en Tanzanie pour étudier dans les bonnes écoles. Et là, l'enfant
se retrouve en brousse, en train d'être formé à manipuler, à manier les armes.
Mais quand il est arrivé dans les Beni, il a commencé à manipuler l'arme, il était enrôlé. Mais c'est par grâce que l'enfant, finalement, en allant puisant de l'eau, il avait échappé. Et puis, les amis de Beni nous ont contactés pour que nous puissions favoriser la réintégration de l'enfant qui était venu de Minova à la frontière entre le Nord Kivu, donc la ville de Goma et le site Kivu. Mais lorsque nous plaçons l'enfant, imaginez-vous dans une famille d'accueil. D'abord, toute cette famille, on sait, cet enfant, il a tué, il vient des forces armées et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc,
Monsieur Fernand, il semble que ces genres d'enfants dans les familles d'accueil, il faut leur témoigner beaucoup d'amour pour qu'ils arrivent à bien s'intégrer dans la famille.
Oui, il faut soutenir cette action avec un suivi, des formations avec des familles d'accueil. Et puis ce sont des familles d'accueil, des volontaires qui sont engagés, des gens qui ont partagé les chocs affectifs avec vous. On ne prend pas la famille d'accueil pour prendre la famille d'accueil et qui reflète un modèle dans la société. Le couple, c'est un couple de modèles, mais qui veut servir la communauté. Et mais c'est difficile toujours parce qu'après le voisinage vont dire vous avez des soldats avec vous. Oh, et parfois des palabres. Mais votre enfant il a volé. Votre enfant il a fait ceci et cela. Donc pour Clément, je suis d'avis avec lui que ce n'est pas facile. Nous pouvons les réintégrer. Mais si dans la réintégration on n'a pas trouvé et qu'il n'a pas eu la capacité d'organiser autour de lui les mécanismes de recherche et de produire des ressources, il va finir encore par être réenrôlé. Et c'est ça que nous visons, les échecs de l'enrôlement.
Monsieur Fernando, faut-il envoyer ces enfants dans les écoles normales ou bien il faut des écoles spécialisées ou bien qu'ils aillent apprendre les métiers, la maçonnerie et autres?
Mais nous, dans les mécanismes, nous disons que c'est une combinaison, et c'est une interaction entre l'environnement, facteurs favorisants et acteurs. Donc on ne peut pas se retrouver pour dire nous sommes en train de réinsérer les enfants. Et après, on donne le kit, on donne le cobaye, on donne. Mais c'est ça les habitudes que nous avons vécues en RDC. Mais maintenant, Il faut suivre le processus, il faut un suivi, il faut une orientation. Lorsqu'ils sont, ils ont été reçus, il faut une discussion, une orientation. Mais et cet enfant qui a moins de 15 ans, il est encore favorable pour retourner à l'école. Et c'est ça que nous appelons la réinsertion scolaire. Et l'appui à la réinsertion scolaire, ce n'est pas lié avec un projet, parce que le projet est de 6 mois, 8 mois. Voilà encore l'autre problème. Et les humanitaires vous viennent avec des projets de 6 mois, de 12 mois. Imaginez-vous, seulement pour former un mécanicien, il faut 12 mois. Plus les stages, ça fait combien? Ça fait presque 15 mois, n'est-ce pas? Et on vient avec un projet de 6 mois, on dit on va réinsérer l'enfant. Mais après, nous, les FSH, on dit rester avec l'argent au lieu de faire le saupoudrage pour la vie d'un enfant. Et un enfant vous coûte. Le cadre opérationnel par enfant dans un projet, il dit, bon, cette opération, elle peut vous coûter 500, 450, et ainsi de suite. Mais ça ne coûte rien. Si vous voyez le coût pour un enfant, mais c'est quelque chose de précieux et c'est coûteux, le coût d'un enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ceux-là qui ont atteint l'âge de 17 ans, et ils frôlent même 18 ans, 17 ans, 16 ans, on fait une orientation vers le métier. Et le métier, on ne s'imagine pas le métier dans un bureau. C'est-à-dire, avec discussion, l'enfant vous dit le choix de métier. On a fait des forats où les enfants visitent même les filières de métier, ainsi de suite. C'est après que cela, l'enfant peut faire les choix. Mais évidemment, nous avons vu qu'il y a le mimétisme, parce que l'enfant a vu que tel est mécanicien, et il devient mécanicien lui aussi, ou bien il veut faire par prestige. Lorsque je faisais partie de l'équipe sur l'étude sur la réinsertion, je conduisais l'équipe dans l'Équateur, je suis allé à Mobimbongo. Et quand on discutait, on a vu que l'enfant voulait faire la mécanique. Mais dans toute cette partie, on n'avait que 4-5 véhicules. Et le choix, au lieu d'exploiter le métier ou la filière la plus porteuse, qui était la pêche, et on dit, bon, la mécanique. Et on a vu des ratés comme ça. On a vu des ratés comme ça.
Bien, un instant, on va accueillir Christian de Kinshasa. Au Capi Service, nous parlons de la réinsertion sociale des enfants sortis des groupes armés, des questions et préoccupations. Composez les 081 890 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Comment réussir la réinsertion des enfants sortis des groupes armés? On en parle avec Fernando Nkanawa Katamba, directeur exécutif pays de la Fondation Solidarité des Hommes. Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Christian.
Merci Jody de la parole accordée. Jody, je crois que je vais aborder la thématique de la même manière que à l'invité, mais seulement je vais ajouter un petit bémol en disant que vraiment l'État doit nécessairement prendre ses responsabilités. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup plus les centres d'apprentissage des métiers de nos jours est vraiment abandonné au seul privé, alors que nous avons tout un ministère qui devrait normalement s'en occuper. Je cite ici le ministère des Affaires sociales. Et donc l'État doit ranimer les centres de formation et d'apprentissage. C'est très important. Je dis, vous savez que l'apprentissage des métiers ou encore bref, tout ce qui s'intéresse à l'apprentissage des métiers, formation et consorts, c'est aussi parmi les mécanismes de gestion de crise. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays où le phénomène enfant de la rue ou encore le phénomène enfant soldat, vraiment c'est monnaie courante. Alors pour chercher à solutionner cette question, il faut ces gens des centres. Parce que celui qui sort fraîchement d'un groupe armé, sans pour autant qu'il soit récupéré, mais c'est un potentiel Kuluna, je dis. Et si jamais il ne fait le Kuluna à bas âge, mais c'est un Kuluna en cravate que nous formons. Parce que si des mois après demain, il n'a pas été récupéré par un centre d'apprentissage, Mais par miracle, Dieu a fait que celui-ci soit encadré d'une manière ou d'une autre. Mais pendant qu'il n'a pas été désintoxiqué par rapport à tout ce qu'il a vécu, je dis, il deviendra un grand détourneur. Et donc, pour ce faire, je dis, je crois qu'au-delà de ces centres que l'État doit réanimer, il faudrait encore créer un fonds destiné aux enfants sortis des groupes armés, parce que sans moyens, on ne peut jamais arriver à des résultats beaucoup plus escomptés. Donc il faudrait vraiment un fonds destiné à ces genres de personnes pour pallier, n'est-ce pas, à l'insuffisance ou encore à la carence, parce que les privés, les fonds, mais c'est avec les moyens de bord. Et si l'État reprend sa place, il faudrait vraiment un moyen, parce que des fois, nous assistons aussi à un déficit budgétaire du côté de l'État, mais s'il y a un moyen approprié où nous irons, où ces centres, ou encore ces départements, ce ministère, ira tout simplement puiser pour récupérer ces enfants, ça sera bonne chose. Mais au-delà de ça, je dis, il faut encore des campagnes de sensibilisation pour ceux qui n'ont pas encore intégré les groupes armés. Il y a des promesses trop mensongères que l'on miroite à ces jeunes en disant, voilà, une fois vous intégrer l'armée, vous deviendrez colonel, vous serez récupéré au sein de l'armée régulière, vous deviendrez major, vous deviendrez colonel. Et du coup, les jeunes sans ambition ou encore en quête d'une vie meilleure, acceptent facilement et se lancent à ces genres de pratiques. Mais s'il y a des sensibilisations et que l'on fasse des sensibilisations beaucoup plus approfondies et surtout dans des milieux où dans des milieux à risque, eh bien les jeunes auront conscience et ils comprendront que ça ne sert pas d'aller dans des groupes armés. Plutôt, il faut
merci Christian
autrement faire les études et consorts.
Merci Christian. On va donner la parole non à notre invité, et bien entendu il n'y a pas un autre auditeur en ligne pour l'instant. Monsieur Fernando, vous avez la parole.
Oui, bien merci. Merci à tous les auditeurs qui sont vraiment intéressés pour...
Voilà, permettez, monsieur Fernand, on va accueillir un auditeur, Fariel Depuy-les-Beaux. Bonjour, Fariel.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, monsieur Jody, moi, vraiment, j'ai des regrets, parce que si tous ces enfants ont fini par être recrutés au sein des groupes armés, c'est tout simplement l'absence d'encadrement de ces derniers par l'État congolais. Mes deux questions sont les suivantes. Pourquoi certains enfants sont abandonnés à leur triste sort? Et la deuxième question est la suivante. Pourquoi l'État congolais laisse toujours les privés faire ce travail alors qu'il a toutes les possibilités de réinsérer tous ses enfants? Voilà au moins mes deux questions à l'invité.
Bien, merci Fariel. Monsieur Fernando.
Oui, merci beaucoup. Effectivement, je vais rebondir d'abord par je commencerai par la préoccupation de Monsieur Fariel de Ilebo. Et donc, il est vrai que je partage la même préoccupation. Nous avons fait des plaidoyers, Monsieur les journalistes, par rapport à l'état des lieux, sur l'absence de l'État dans toutes les questions qui concernent les enfants. Et je dois vous apprendre que moins de bailleurs de fonds qui s'intéressent à la question des enfants en République démocratique du Congo. Vous aurez des financements sur la violence sexuelle, sur la paix, sur des je ne sais pas quoi et quoi, mais vous verrez moins de financements pour les enfants. Et ça vient d'ailleurs, ça vient dans le cadre. Et lorsqu'on parle des enfants, on dit seulement le financement c'est pour les enfants sortis des forces groupes armés. Et c'est limite avec le financement UNICEF ou bien ce qu'on appelle les fonds humanitaires. Mais là, il y a l'absence totale. Alors, regardons très bien la situation en République démocratique du Congo. Les centres, les ministères des Affaires sociales avaient des centres, mais ces centres ont été abandonnés à leur triste sort et d'autres ont été comment? Vendus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les ministères des Affaires sociales ou le gouvernement, au lieu de se rabattre sur les efforts, c'est ce que nous appelons le volontariat, l'apostolat que nous faisons. Vous prenez en charge l'allocation d'un immeuble où vous devez encadrer ses enfants, ainsi de suite. Mais nous ne bénéficions même pas, j'ai dit, même pas de facilitation pour que puissent encourager tous ces braves hommes qui s'occupent des enfants. Mais la réinsertion a les coûts. Même l'apprentissage, il faut. Vous devez avoir des outils pour travailler, renouveler les rabots, les machines à coudre. Mais quels sont ces bailleurs de fonds
qui va vous donner tout ça? Et donc, et dans nos, la plupart de nos centres, d'ailleurs la totalité de nos centres, l'éducation est faite gratuitement. Je dis encore gratuitement. Il n'y a aucun rond. Mais regardez cet État, comment il va récompenser les gens qui font payer la prime et qui font torturer nos enfants, que ce soit dans les dans les secteurs religieux, les secteurs laïques ou alors officiels. On a fait payer. Et on avait payé ce que nous appelons la prime. Mais le même État fait payer et il donne le salaire à tous ces gens. Quelle est la part de l'État? Quelle est la contribution de l'État du secteur informel? Parce que nous sommes du secteur informel. C'est une chose. Parce que nous devons attaquer le mal, en amont comme en aval, dans la prévention, c'est-à-dire le multitude centre qui occupe les enfants, qui les recycle, qui donne le pouvoir de retourner avec un métier. Et je dois dire qu'il n'y a pas la réinsertion véritable qui ne passe pas la formation professionnelle. Ce qu'on a vu en RDC avec les ONG internationales, c'était des saupoudrages tout à fait. Et donc on donne des kits, on dit on a réinséré. Mais réinséré, il faut que l'enfant ou le groupe d'enfants arrive à mettre en place une micro-entreprise. Il faut un fonds de roulement, il faut un loyer. Ils font un suivi de proximité pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'autonomiser eux-mêmes. Et c'est alors qu'à ce moment-là qu'on va essayer de réduire le temps de suivi et la fréquence de suivi.
D'accord. On va accueillir deux autres auditeurs, Israël de Mouika et Maître Gilbert de Kindou. Israël, bonjour.
Bonjour à la radio Okapi, bonjour à tous les invités de la radio.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et avant tout, je salue d'abord l'intervention d'invité. Je suis vraiment touché avec la thématique du jour. Étant donné que l'État lui-même est victime de cette difficulté, j'aurais souhaité que l'État prenne en considération, avec tout amour, cette difficulté, qu'il crée des centres de formation, qu'il crée des métiers pour les enfants réclutés aux groupes armés, non seulement des centres et autre chose pour les enfants qui sont recrutés aux groupes armés, mais il y a encore des questions que je vais essayer de poser à l'État congolais. Est-ce que les groupes armés que les enfants victimes ont été recrutés et autres là, ils appartiennent à qui? Si réellement les groupes armés appartiennent à l'État, mais où est alors le problème de poser trop de questions? Il serait mieux que l'État lui-même, comme je l'ai déjà dit, prennent en considération avec un amour profond cette difficulté.
Parce d'accord. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Donc il faudrait que l'État congolais, le gouvernement congolais puisse s'impliquer dans la prise en charge de ces enfants sortis des groupes armés. Maître Gilbert, vous êtes à Kindou, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, et bonjour à tous les auditeurs qui entrent.
Quelle est votre question, Maître Gilbert, rapidement?
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Comme l'invité vient de dire, je suis très content, il a déjà parlé, et mon ami Israël vient encore d'ajouter quelque chose. Moi, je voulais toujours ajouter celle-ci, que l'État, il continue toujours à créer des centres de formation et de donner quelques petites sommes de l'argent à ces enfants-là qui ont quitté l'armée. Parce qu'il y a certains et qui sont regagnés leur famille et d'autres qui sont délaissés. Or, celui qui est délaissé, il peut être encadré par l'État. Et c'est là qu'ils sont regagnés leur famille. Et la famille doit nécessairement encadrer en attendant l'intervention de l'État. C'est ce que je voulais compléter à ce sujet.
Merci. Bienvenue. Vous êtes à Bounia. Bonjour. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, bienvenue?
Oui, moi, je m'appelle Bienvenue Moudjaki Saoumire, étudiant à l'Université Shalom. Ce qui se passe souvent avec les groupes armés en Ituri, c'est catastrophique parce que nous sommes grandis dans l'insécurité et puis nous vivons vraiment ce qui se passe avec les enfants. Comment expliquer, on peut dire que l'EDR a travaillé alors qu'on ne voit rien? Parce que depuis 2002, il y a les enfants qui étaient partis là-bas. Et puis quand ils sont sortis, au lieu qu'ils soient intégrés, mais ils continuent toujours, ils sont devenus des bandits, ils sont devenus des mains armées. ils ne sont pas utiles pour la société. Et puis, encore, je peux dire, deuxième vague d'accord de rébellion avec les CODECO, les FRCI, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants encore qui sont recrutés là-bas. Et puis, d'autres enfants ne sont pas recrutés, mais sont allés là-bas avec des mouvements. Peut-être l'enfant était accusé à cause des violences, peut-être l'enfant a volé seulement quelque chose à la maison et puis il a eu peur des répliques du parrain et puis l'enfant a pris la décision d'aller là-bas. Et s'il produit de prendre les enfants, de les amener encore dans la communauté. La Constitution réclame que l'enfant ne peut pas travailler. Au lieu d'intégrer les enfants dans la société, je pense que c'est quelque chose qui est difficile si on dit de donner à un enfant, par exemple, 5 000 $. Qu'est-ce que l'enfant va faire avec ça? Mieux vaut que notre gouvernement puisse prendre des mesures pour commencer d'abord à sensibiliser les grandes personnes. Parce que les enfants sont influencés par des grandes personnes. Jamais un enfant peut prendre seulement la décision seule d'aller dans la brousse. Il n'est pas mobilisé par un grand, il n'est pas influencé par un grand. C'est pourquoi je demande beaucoup à notre gouvernement de beaucoup travailler avec les parents, surtout avec les majeurs, les étudiants, les associations des étudiants, pour qu'ils puissent sensibiliser d'autres enfants là, qui sont dans des villages, dans des communautés, de puissent connaître la valeur des études pour leur montrer leur futur et meilleur. Et
là, merci, bienvenue. Merci, bienvenue de Bounia. Kachai, vous êtes à Kanyuka, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à la réinsertion sociale des enfants miliciens. Ici, en 2017-2018, il y avait un programme arrêté respectivement par la MONUSCO et le gouvernement provincial que dirigeait l'ancien gouverneur Kambayi. Monsieur Jody, pour réinsérer les miliciens du mouvement insurrectionnel Kamuinansapo. On voulait quand même créer une activité pouvant permettre à ces enfants-là de bien vivre dans la société et abandonner les armes. Un programme déjà bien arrêté, bien tracé, financé. Mais lorsqu'il y a eu un autre gouverneur, tellement que nous sommes dans un État où il n'y a pas les suivis, les contrôles, la surveillance, un État sans continuité de programme, l'autre gouverneur est venu, alors on a bafoué ce qu'on avait déjà entamé, comme si que celui qui avait commencé avec ce programme-là n'était pas sain d'esprit et lucide. Alors, comme on déchoit à tout moment les dirigeants, on pense que celui qui vient est un ange.
Et qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qui était déjà décaissé pour financer ce programme-là?
C'est ça le problème, monsieur Jody. C'est ça le problème, parce qu'ici, à Kanan, il y a quoi? Quand on dénonce les méfaits des gouvernants, vous devenez mauvais ennemi de ces gouvernants-là. C'est pourquoi je voulais insister sur cet argent-là. L'argent qu'on avait financé pour la réinsertion sociale des miliciens Kamuinansapo. Cet argent-là a été affecté à la réinsertion. Mais il est où?
Quels sont devenus ces enfants-là? Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui?
Mais les enfants, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils sèment la terreur dans la ville. Quand on vous parle de l'insécurité accrue à Kananga, au jour le jour, les gens ne dorment pas. Mais les autres là sont en paix. Ici, du jour au jour le jour, monsieur Jody, on visite, on pille, on vole, on viole. Qui sont à la base? Ce sont ces enfants-là, parce qu'on voulait les encadrer. Mais il n'y a pas alors l'encadrement. Moi, personnellement, j'ai causé avec certains. Ils disent, comme nous n'avons pas l'encadrement, notre argent est détourné, personne ne s'occupe de nous, nous allons vous montrer encore ce qui va se faire dans cette province.
Merci, Kachai. On n'a plus beaucoup de temps.
La MONUSCO est en train de partir.
D'accord, on n'a plus beaucoup de temps. Merci.
La MONUSCO est en train de partir. On a demandé que...
Merci, Kachai. Monsieur Fernando, on va conclure. Vous avez suivi, les sujets intéressent beaucoup les auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin? Donc, cela demande l'implication totale du gouvernement congolais dans la prise en charge de ces enfants.
Oui, mais comme vous avez entendu ce qui c'est l'État congolais est à la barre et il doit prendre ses responsabilités en main. Et on n'a pas un avenir de ce pays si on n'a pas investi dans les enfants. Et chaque fois, j'ai dit,
une nation qui ne prend pas, qui n'encadre pas, qui ne prend pas en charge ses enfants, c'est une nation génocidaire. Et donc, qu'est-ce que nous deviendrons demain si nous avons des enfants qui ont raté, n'est-ce pas, leur vie, et parce qu'ils ont raté, mais on a volé leur enfance, on les a placés dans ce qu'on appelle des sociétés de violence totalitaire. Et qu'est-ce qui les revient? Et surtout lorsque la récession a échoué. Regardez, l'enfant qui a raté la récession en 2004, aujourd'hui, vous savez, il a quel âge? Eh bien, cet enfant aujourd'hui, il est capable de nier. Pas il est capable, ce sont eux. Et regardez, lorsque vous êtes dans la ville de Bukavu, la ville de Goma, on abat les gens pendant les jours. À 17h, on abat les gens. Les armes circulent. Vous savez, le prix d'une arme chez nous ici, avec 30 dollars, vous avez une arme. Et il y a des armes qu'on met en location. Donc, quelqu'un vous a insulté, la première chose que vous cherchez, c'est ces jeunes gens qui ont eu des frustrations, dont la récession a raté. Et ils retournent la vengeance contre la même société qui les a fait venir au monde. Mmh. Et nous disons donc, nous devons avoir des programmes. Le gouvernement doit mettre en place des programmes. Et bien sûr, il a mis des programmes, mais il faut la volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Ça coûte quoi au gouvernement? Il y a 1000 ou 1500 écoles fictives. Ces ressources ont été braguées et bouffées par des gens, des Congolais comme nous. Mais si ces ressources-là étaient affectées dans nos centres de formation, je pense que les animateurs, les assistants sociaux qui travaillent bénévolement pouvaient avoir encore la force pour fournir. Si nous avions encadré pour une année le bilan, d'ailleurs, on ne voit même pas ce gouvernement qui fait des statistiques pour dire combien d'enfants, notre contribution à la nation, combien d'enfants qui étaient dans les risques d'exclusion ou alors qui ont été exclus de la société ont été récupérés et réinsérés dans la société.
Merci. On ne le voit pas. Donc, la part du gouvernement congolais, beaucoup d'auditeurs demandent au gouvernement de s'impliquer dans la prise en charge, dans la réinsertion de ces enfants. Merci, Monsieur Fernando Kanawa Katamba. On n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif pays de la Fondation Solidarité des Hommes. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Je remercie beaucoup la radio Okapi et surtout tous les auditeurs avec lesquels nous avons interchangé sur la question.